Les Racines du Futur, une émission pour écouter les Bauges.
J'ai grandi en Bauges et j'ai l'impression que les choses ont bien changé. Le nombre d'habitants, les paysages, le tourisme, les paysans. 38 ans, c'est bien peu, mais comment a-t-on si vite changé? Tout avait l'air immuable. Est-ce une constante de toutes les enfances? Nous chantions ensemble et nous avons dû nous confiner. Alors j'ai eu envie de faire parler nos aînés. Comment c'était quand ils étaient petits? Comment le monde a changé? Ont-ils des regrets? Sont-ils heureux du monde d'aujourd'hui? Voici quelques partages. Merci à eux. Je suis allée interviewer Paul Verguin pour savoir ce qui avait changé dans les Bauges depuis son enfance. Il a préparé tout un travail qu'il nous livre en 3 épisodes avec sa femme Marie-Françoise qui complète parfois ses réponses. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode.
Le tourisme, c'est quelque chose qui a déjà commencé un petit peu une dizaine d'années après la guerre. Les gens venaient déjà, on commençait à me dire en vacances d'été, mais souvent ils venaient pour 15 jours ou un mois. C'était les habitudes de ce moment-là. Et puis après, ça a changé un petit peu parce qu'il y a eu les terrains de camping qui sont ouverts, il y a eu la base de loisirs, les plans d'eau. Et puis un peu à la même époque, il y a eu l'ouverture des stations. Il y a Ayon Jeune qui a dû commencer, je pense, bientôt une cinquantaine d'années.
Alors vous avez connu la montagne sans les stations? Oui. Et le plan d'eau, quand c'était un marais.
C'était une étendue plus ou moins vierge, avec le cours de Chéran qui se déplaçait d'un côté de l'autre selon les crues.
Et oui.
Moi, j'ai connu, il n'y avait pas encore le plan d'eau. Moi, je suis arrivé en 72 dans les Bauges. Je me souviens, on allait se promener sur le site du plan d'eau, mais il n'y avait pas de plan d'eau.
Il n'y a même pas une mare, on pouvait se baigner.
Ah non?
Ah non. Il y avait juste un endroit où le ruisseau s'est allé un petit peu, mais sur quelques mètres.
D'accord, oui, ça a bien changé maintenant. Hein.
Oui.
Nous, on y allait se baigner dans les années 90, 85. C'était assez simple, mais ça commençait déjà à prendre de l'essor, les parkings, etc., le camping. Et puis là, c'est vrai que c'est devenu vraiment très gros.
Parce que le premier plan d'eau, là, c'était à l'Échrenne, là où ce qu'on appelle le petit plan d'eau maintenant. Il a dû se faire en 74-75. Hein. Il y était, puisque... Oui, ça, je suis sûr.
Et après, les autres...
Après, il y a eu le plan d'eau qui est près du camping qui s'est fait par la suite. Et puis après, le camping
encore
du Châtelard.
Encore celui derrière. Et celui de la Motte, oui, de Châtelard.
Et celui de la Motte, ça s'est fait.
Oui, là, il n'y en avait pas non plus.
Non, il n'y en avait pas, c'est artificiel.
Tout artificiel, d'accord. Ouais.
C'est artificiel, il a fallu une digue et puis arriver de l'eau, quoi.
C'est ça, creuser.
Voilà. Cette période, ce qui est important, ça a changé le tourisme, c'est l'ouverture des stations. Il y a eu d'abord Ayon Jeune, et puis après, par la suite, on s'est aperçu qu'au niveau enneigement, Majeria était meilleur, donc ça s'est installé Majeria. Et puis, il y avait quelque chose qui existait déjà, c'était la Féclaz, c'est quelque chose d'ancien, mais alors là, ça a beaucoup, beaucoup progressé. Voilà, puis on a vu arriver des tentes, des caravanes, et les habitudes de population ont changé. Les gens venaient le week-end, ils venaient pour une semaine, et du coup, pour une semaine, c'est des locations et hébergements qui se sont multipliés, quoi. C'est une autre manière de faire, et c'est une transformation, mais ça a amené beaucoup de monde. Et puis, d'une période où les locations marchaient que l'été, ça s'est ouvert l'hiver aussi, les locations ont fonctionné l'hiver.
Et pour revenir à cette histoire de station, qui c'est qui a lancé ce projet de Majeria Ayon? Comment ça s'est lancé?
Majeria Ayon, il y a eu au moins 3 personnes qui ont beaucoup participé. Il y a eu le maire, l'adjoint, qui n'était pas du même parti politique, mais qui ont eu l'intelligence de bien s'entendre. Et puis il y avait aussi un monsieur qui s'appelait M. Bola, qui était garde forestier. Ils étaient au moins 3 personnes bien impliquées. Il y en a d'autres certainement qui ont aidé, mais ils étaient 3. Le maire, c'était Gaston Trépied. L'adjoint, c'était Raymond Garnier. Mm-hmm. Et Le troisième larron, c'était M. Bola. Je ne me rappelle plus de son prénom.
Du coup, ils ont porté ce projet-là.
Et la population a suivi. Quoi.
Les gens étaient plutôt contents d'ouvrir ce projet.
C'est tombé à une époque où il y avait beaucoup de neige niveau de la station, là. Au niveau de la Corrérie. Quoi.
Ouais.
Il y avait beaucoup de neige et l'enneigement étant favorable, ils ont pu le faire à ce niveau-là. Quoi.
Chacun a vu, j'imagine, une opportunité.
Sont partis d'existants, puis la population au début, bon, certains agriculteurs étaient réticents, mais...
Quand même, oui.
Parce que je me souviens de l'abbé Grumel qui avait dû intervenir pour calmer le jeu, disons.
Pour un conflit.
Il y avait une discorde.
Une histoire de conflit.
Il y avait des agriculteurs qui ne voulaient pas. Il y avait des histoires de clôtures.
Il y avait les clôtures qu'il fallait refaire au printemps. Enfin,
et du coup, l'abbé a plaidé pour le ski ou...
Il a plaidé pour l'essor de la station.
Lui, il était conscient que c'était ça allait donner un certain essor à la... À la commune, quoi. Donc,
d'accord. Ouais, c'est parce que je me dis, un projet d'une telle ampleur, forcément, il doit y avoir des gens qui sont contents et d'autres qui le sont moins, quoi.
Mais finalement, la population s'y retrouvait, quoi. Oui. Globalement, quoi. Maintenant, c'est possible que ça puisse en déranger certains, mais la population d'Ayon Jeune y a adhéré à ce projet, quoi.
D'accord.
Ouais. Voilà, j'essaye d'avancer parce que ça tourne vite. Oui. Je voudrais parler au niveau scolaire. J'étais encore jeune, j'ai vu le collège, il n'existait pas, il a vu le jour, je ne sais pas quand, mais il y a une bonne cinquantaine d'années, un peu plus, peut-être une soixantaine d'années.
Tel qu'il est maintenant.
Tel qu'il est, mais il n'existait pas.
Il a été construit vers 68, quelque chose comme ça.
Ouais.
Mais il y avait quand même un collège avant, puisque ta cousine Thérèse allait y aller.
Oui, oui, il y avait un collège qui se passait, ça se passait au niveau de la mairie du Châtelard.
Enfin, au-dessus de la mairie du Châtelard.
Ouais. C'était déjà, il y avait déjà un collège.
Un établissement pour les enfants.
Il a pris une grande ampleur avec un nouveau bâtiment. Ça s'est passé au moment du docteur Bertoin, qui était le maire du Châtelard.
D'accord.
Il est allé chercher son dossier à Paris, présenter son dossier direct à Paris. Il devait connaître quelqu'un, il est allé le plaider à Paris. Voilà, et puis ce que j'ai remarqué beaucoup, c'est les regroupements d'écoles dans les villages les plus centrales. Et là, ça a occasionné un déplacement des élèves et, avec un moyen de transport adapté, quoi. Ça fait quand même un changement assez profond dans la manière de faire. Vas-y, Marie.
Avec ouverture d'un pensionnat.
Ah, au collège.
Quand le collège a été construit, il y a eu un pensionnat. Donc, il y avait beaucoup d'enfants Beaujus qui étaient internes.
À l'époque. Même en habitant dans les Beaujus.
Oui, à l'époque, parce que c'était nécessaire.
Pendant
une dizaine d'années.
Une petite dizaine d'années.
Parce qu'il n'y avait pas moyen de transport adapté.
D'accord.
Après, les transports se sont mis davantage en place. Donc, en fait, les enfants Beaujus, ils n'étaient plus internes. Et pour quand même remplir l'internat, on a fait appel sur les alentours Chambéry, Aix-les-Bains, Albertville, enfin bon, bref.
D'accord.
Avec mise en place de la section sport-études, quand on a vu que les effectifs diminuaient, comme ça, ça a permis d'attirer encore des enfants de
l'extérieur.
D'accord.
Et de maintenir,
le fonctionnement.
C'est pendant les années 80 que les effectifs avaient énormément baissé sur le Châtelard et on avait peur que le collège finisse par fermer, quoi. Donc, l'équipe enseignante, on a cherché à trouver des solutions pour attirer des élèves, quoi.
D'accord. Oui, parce que les écoles, j'imagine qu'elles étaient...
Il y a eu un creux.
Voilà, il y a eu un gros creux dans les années 80, comme tu dis, 85, 90. Et puis maintenant, il y a à nouveau des enfants qui reviennent. Mais c'est vrai qu'à une époque, pareil à Bellecombe, on était à deux doigts de fermer l'école quand j'étais petite, en 90. Mais j'imagine que vous, quand vous étiez jeune, quand toi tu étais jeune, Paul, les écoles ici, c'était la foule.
Il y avait du monde.
Il y avait plein de monde, ouais, plein
monde
d'enfants.
Encore. C'est les années qui ont suivi la guerre. Hein. Moi, j'ai été en scolarité en 47, 48, 49, pendant là, 50.
Il y avait combien de classes ?
Il y avait deux classes.
Il y avait deux classes à l'échelle.
il y avait bien 25 à 30 élèves dans chaque classe, quoi, à peu près. Il n'y en avait pas énormément. Hein,
mais c'était déjà quelque chose. Hein.
Bon, ça allait, on était habitués comme ça, ça allait. C'est bien. Moi, j'ai rien à dire.
Des bons souvenirs.
Non, c'était bien. On faisait avec. Mais bon, c'est vrai que la même personne faisait 3-4 niveaux, quoi.
Le même instituteur. Oui, oui.
C'est que c'était garçon d'un côté, fille de
l'autre. Non, on était ensemble.
Ah non, vous étiez ensemble.
Garçon et fille, nous. Mais il faisait 3-4 niveaux.
Il devait y avoir 3 niveaux.
Nous à Bellecombe, c'était ça. L'institutrice ou auteur avait 3-4 niveaux, je crois. 3 ou quoi ? 3 ou 4. Mais ça permettait, moi j'appréciais, parce que si on avait raté quelque chose, on pouvait réviser un peu de temps en temps. Et puis si au contraire, on avait bien compris, on pouvait aussi suivre un autre niveau au-dessus, quoi. Donc, j'aimais bien cette... Peut-être que ce n'était pas facile pour les instits, je ne sais pas.
Ouais. Un point important, j'ai vu, c'est la santé. La santé, il y a eu la maison médicale à l'Échrenne qui a porté de multiples services, multiples fonctions que vous connaissez bien, au plus près de la population, et c'est pas rien. On a la chance d'avoir tous les services nécessaires à notre niveau.
Ouais, on n'a pas besoin d'aller en ville systématiquement.
Avant d'aller à l'hôpital, quoi. Après c'est l'hôpital, mais jusqu'à ce niveau-là, on a beaucoup d'aide.
Oui, ça c'est vrai bien, que c'est très même, équipé aujourd'hui. Hein.
Je vois récemment une dame qui est décédée, il y a des infirmières qui viennent jusqu'en fin de vie, quoi, qui interviennent, c'est beaucoup. Hein. On a tout, hein. Médecin, dentiste,
kiné, orthophoniste, ouais.
Kiné, ostéopathe, tout.
Oui, c'est vrai que c'est précieux. Quand on était plus petit, il y avait le docteur qui était là jour et nuit. Le pauvre, il n'arrêtait pas de courir.
Il faut connaître, le docteur Gagnor s'est beaucoup impliqué dans l'installation de la maison médicale avec le maire de l'époque, qui était Edmond Darvet.
Avec Edmond Darvet. Les deux
avaient bien
chacun,
saisi l'importance
des projets, et puis ça s'est bien réuni pour pouvoir le réaliser.
Et quand toi tu étais petit, Paul, du coup au niveau médecin, comment ça se passait? Il y avait
un médecin au Châtelard pour les Bauges.
D'accord, il y en avait qu'un sur toutes les Bauges au Châtelard. Et il faisait
et
tout, j'imagine.
Pendant
tout.
La guerre, il circulait en moto.
Ah oui.
Parce que moi j'ai eu une appendicite, non, une hernie étranglée plutôt. Et le médecin n'a pas pu me transporter à l'hôpital. C'est
sur la moto.
C'était le maire de l'époque qui avait une voiture. C'était
d'accord.
Monsieur Paquet.
Qui vous a
transporté
emmené
à l'hôpital. Voilà.
Et le médecin, ce docteur, il faisait aussi dentiste ou ce genre de choses, non?
Non, quand même pas. Pas dentiste. Non, il faisait que le docteur, mais il avait suffisamment à courir.
Ah oui.
Mais j'étais le docteur Sapp.
D'accord.
Ouais. Voilà.
Pour les accouchements, il y avait au moins une sage-femme, je crois qu'il y en avait peut-être même plusieurs, je ne sais pas. Mais il y avait, c'était des sages-femmes. Hein. Les femmes allaient peu à la maternité. Hein.
Maintenant, j'ai sans doute oublié beaucoup de choses, mais je veux dire aussi ce qui m'a interrogé, enfin ce que j'ai aperçu, c'est que si on parle de 60 ans en arrière, les habitants d'une commune se connaissaient pratiquement tous. Et maintenant, je pense qu'il y a la moitié de la population qui a changé. Quand on parle des Beaujus, il faut savoir qu'il y en a la moitié qui ne sont pas originaires des Bauges et ils font partie des Beaujus. Hein.
Alors justement, Marie-Françoise, toi d'où tu viens ?
Ah ben moi je viens de Normandie.
Ah, c'est vrai. Et alors comment tu as fait pour rencontrer Paul ?
Eh ben je faisais une colonie de vacances à Jarzy et donc fallait promener les enfants, etc. Et puis, je vais être rapide, c'était une colonie laïque. Et il y avait un habitant de Jarzy qui nous disait « Mais il faut aller à Notre-Dame de Bellevaux !» Alors moi, j'hésitais un peu parce que c'était une colonie laïque. On a fini par se laisser convaincre et nous sommes allés donc un dimanche avec les... je ne sais pas, on n'a vu qu'une partie de la, une partie de la colonie... avec nous, et c'est là que nous nous sommes rencontrés. Parce que Paul descendait de la montagne avec des...
Les sabots de Vénus, non ?
Des quoi ?
C'est pas les sabots de Vénus
Non, ça veut dire qu'il y avait des sabots de Vénus, mais enfin... Des fleurs, bon, bref, quoi. Des fleurs des montagnes, qu'évidemment, en tant que normande, je ne connaissais pas. Avec une amie, toutes les deux, on est tombés en admiration, et puis... Après, ça, c'est l'admiration s'est transformée en admiration réciproque.
Et du coup, toi, tu as quitté la Normandie et tu t'es dit, je viens habiter ici.
Bah, oui, Paul avait bien proposé de venir vivre en Normandie, mais j'avais vite compris qu'un montagnard, un Beauju, il n'est pas capable de sortir de ses Bauges.
C'est toi qui as dit.
Donc, c'est moi. Puis en plus... À l'époque que j'avais découvert la montagne quelques années auparavant, et je ne rêvais que d'une chose, c'est effectivement de venir vivre en montagne. Donc ça.
Et tu étais bien accepté, du coup, le fait de venir d'ailleurs, entre guillemets,
par
les voisins, les amis, la famille.
Quand on vit dans les Bauges, on réalise assez rapidement que les Beaujus vraiment du cru, eh ben effectivement, font bien la séparation entre les Beaujus du cru et les Beaujus qui viennent s'implanter. Alors, bon.
Peut-être que maintenant, comme il y a de plus en plus de nouveaux, peut-être que cette impression-là va se dissoudre un peu.
Les Beaujus du cru savent bien toujours te placer dans la conversation, te rappeler que tu n'es pas Beauju d'origine.
C'est terrible. Hein, t'as pas hésité pour autant, Paul. Tu t'es dit tant pis si elle vient d'ailleurs.
Ah, ça, c'était, je sais pas, une acceptation réciproque. Alors, je ne sais pas. Ça me posait pas trop de problèmes.
C'est bien.
Non, mais j'étais quand même habitué à circuler. Hein.
Oui, c'est ça. Quand même, il y avait des gens qui voyageaient malgré tout et qui avaient l'habitude de voir que. Au dehors des Bauges, il se passait des choses.
Si vous me laissez encore quelques minutes,
allez,
je voudrais faire
dis-nous.
Quelques observations par rapport à tout ce qu'on a vécu. Les habitudes des consommateurs ont changé. Ils ont pris l'habitude d'acheter en grande surface. Ils hésitent parfois à rentrer dans un petit commerce. Ils n'osent pas, des fois. Le comportement du consommateur a été marqué par la publicité. Le consommateur s'est habitué à acheter ce que lui disait la publicité d'acheter. Et ils ont changé complètement leurs habitudes. Et moi, je dirais qu'on vit parfois une société de l'inutile. C'est une société qui crée sans arrêt des besoins. Et le consommateur, il est toujours insatisfait parce qu'il n'arrive jamais à acheter tout ce qu'on crée.
Et s'il y arrive, on va en refabriquer d'autres.
Ben oui, c'est ce que j'observe personnellement. Bon, c'est tout. J'observe et puis chacun pense ce qu'il veut. Et puis voilà, qu'est-ce que je veux dire ? J'ai pensé aussi à quelque chose. Il y a eu... Aussi, nos communes ont changé parce qu'avant, elles étaient rassemblées dans un civum que j'ai vu se créer il y a déjà quelques décennies et c'était déjà pas mal. Puis maintenant, je ne sais pas pourquoi, on nous a rattachés au Grand Chambéry et ça, je n'ai encore pas accepté.
Ah oui.
Et je n'ai pas accepté qu'on nous force la main.
Oui, c'est ça, que les gens n'étaient pas forcément d'accord, ni à Chambéry, ni ici.
Je me permets de dire quelque chose, tant pis, ouais. Je me permets de le dire à la radio. Et ben du coup, maintenant, quand il s'agit d'une élection en dehors des Bauges, je vais voter blanc. Je vais voter quand même, mais je vote blanc, parce que pour moi, la politique, elle fait parfois des choses qui ne me satisfont pas du tout.
Ouais. D'accord. tu as perdu, confiance, ben, le fait d'avoir été forcé comme ça.
J'accepte pas d'avoir été forcé. Alors, je ne vous rappelle pas les circonstances. Les Beaujus, enfin, tout le monde était contre. Et puis, bon, on a passé outre. Et ça, je n'accepte pas. Voilà.
C'est
personnel.
Et oui. Mais écoute, la radio, c'est aussi pour s'exprimer.
On peut dire ce qu'on pense.
Exactement.
Oui.
Écoute, merci Paul d'avoir préparé tout ça. Je ne sais pas si Marie-Françoise, tu veux rajouter des petites choses, toi, par rapport à justement la Normandie, le cadre de la famille, comment les choses ont changé. Est-ce que...
Au début où je suis venue vivre en Bauges, bon, il y a des personnes qui, c'est normal, mais tu t'habitues bien, etc. Et je leur disais, ben, y a autant de pommiers en Bauges qu'en Normandie, donc ça va bien.
Moi, je trouve que les pommiers sont un petit peu en mauvais état ces temps-ci, qu'il faudrait replanter des neufs.
Ah oui. Oui, mais en Normandie, on en a pas mal déracinés, que je sache, ou coupés, et donc il y a eu le même phénomène.
On va replanter des arbres pour nos enfants. Et ben, merci à tous les deux, et puis à très bientôt. Ces témoignages ainsi que les précédents sont disponibles en réécoute sur radioalto.info pour ceux qui ont internet. Vous pouvez aussi venir à la radio, on vous grave un CD ou on vous enregistre les émissions sur cassette pour écouter chez vous. À bientôt sur Radio Alto 94.8.